privé par le père Philippe à Saint-Joseph le 21 mai 85.
Il faut nous préparer à cette fête de la Pentecôte avec une grande ferveur d'amour. Il faut demander cette grâce à l'Esprit Saint. C'est important pour nous, puisque de fait, chaque année, la Pentecôte représente un moment important pour la communauté, pour les familles et les amis. Et que le Seigneur nous a mis pas très loin de Paris pour qu'on puisse tous faire ce pèlerinage en même temps à Paris. C'est un pèlerinage qu'on fait ensemble sous une allure particulière, mais c'est un pèlerinage et il faut que ce soit aussi comme une petite retraite. Ils nous permettent tous de nous renouveler dans un amour plus grand pour le cœur du Christ, source d'amour, source pour nous du don de l'Esprit Saint. Je vous enverrai le Paraclet. Et c'est Jésus qui nous le donne. Et c'est Jésus, dans son ultime moment de son sacrifice, c'est-à-dire le cœur blessé de l'agneau qui nous le donne. Il faut que ce soit pour nous, cette année-ci spécialement, avec toutes les raisons particulières de cette année-ci, puisque 2000 ans, hein, Saint-Père nous l'a dit, 2000 ans de la nativité de Marie, c'est l'année mariale secrète. Hein. Beaucoup auraient voulu que ce soit une année mariale publique, elle est secrète. Et on doit vivre de cela et demander à la Vierge Marie, cette année-ci, d'être particulièrement proche. C'est important pour nous parce que c'est aussi l'année du partage, hein, le passage de l'Hérens au diocèse d'Autun. C'est-à-dire les décisions que l'Église prendra, ce n'est pas encore officiel, il ne faut pas en parler. Mais c'est vrai que c'est important aussi. Il faut le confier à la Sainte Vierge et le confier à l'Esprit Saint. C'est aussi, pour plusieurs d'entre nous, nous savons, une année avec des difficultés au point de vue de la santé. C'est assez normal, il ne faut pas s'inquiéter quand on sait le pourcentage actuellement qu'il y a parmi ceux qui entrent dans la vie religieuse ou dans les séminaires, à cause de la santé. C'est un fait. On a pour tout le temps. L'autre jour, je le savais de mon côté, Père Philippe Marie le savait du sien, quelqu'un que nous connaissons bien. Quand j'avais été l'autre jour faire une conférence à Neuilly, j'avais été reçu chez eux, une jeune maman, 33 ans, 35 ans, je crois. Quatre enfants, subitement arrêtée, conduite à l'hôpital, et elle est là depuis 15 jours. Et elle ne dit pas un mot, l'hémiplégie. Elle ne dit pas un mot, complètement immobile. On ne sent même pas qu'elle respire. Elle a l'air d'avoir conscience. Vous voyez ça, 35 ans. Pas que la vie religieuse qui tue les gens. C'est vrai, c'est partout qu'on voit ça. On voit qu'il y a, on peut dire, je crois, qu'il y a des attaques du démon qui sont très très violentes aujourd'hui. Très fortes. Un peu partout, dès qu'on écoute un peu ce qui se dit, on voit que partout, c'est ça. Et c'est vrai que dans la communauté, nous sentons bien que certains que nous aimons beaucoup Ben oui, ont été vraiment très secoués au point de vue de leur santé. Je pense à nos deux frères, Massé, pas le frère Thierry-Marie, et puis Patrick de la Trinité. Du Rosaire. C'est vrai, ils sont très secoués et nous devons porter pour eux parce que ça fait partie, je crois, de ces liens fraternels. Si on ne sentait pas dans sa chair certaines secousses parce que nos frères sont atteints, secoués, ben, ce ne serait que ça manque un peu d'amour. Nous devons les porter. Et je crois que cette année-ci, très particulièrement, parce que on le voit, c'est forcé, la communauté commence d'avoir un petit peu plus d'âge, alors on voit davantage les conséquences. Mais ce n'est pas, et ce serait faux de le dire, que c'est la vie qu'on mène ici, la vie religieuse, non. Ça me frappe toujours de voir que les bons médecins reconnaissent que la vie religieuse régulière est contraire à quelque chose qui fortifie. Regardez la vie que les gens mènent dans le monde d'aujourd'hui. Hein. C'est une vie tuante. Et les jeunes mamans et les jeunes pères de famille. Hein. Vous savez, nous on peut se faire dispenser assez facilement. Quand on a des gosses, on ne se fait pas dispenser. Et on encaisse. Alors il ne faut pas que nous soyons en dessous. Au point de vue générosité. Il faut que notre générosité, après tout, si on meurt jeune, nous soit pas d'importance. Hein. C'est vrai. Vous allez me dire, c'est facile pour moi de le dire. Oui, c'est très vrai. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est la seule manière de vivre vieux. Alors, prenez la recette. Je crois que si on accepte de tout donner, je vous l'ai dit, au bout de 2 ans de vie religieuse, oui, c'était 2 ans de vie religieuse, j'étais vraiment complètement lessivé. Complètement. Je travaillais 1 heure, je me couchais 2 heures, je travaillais 1 heure, je travaillais 2 heures. Et j'ai supplié de permettre de ne pas quitter le couvent pour rester là, pour continuer de travailler. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est de tout remettre à la Sainte Vierge et dire, ça n'a aucune espèce d'importance de mourir jeune, après tout, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que tout le monde vous pleure quand on meurt jeune. Tandis que quand on meurt vieux, plus personne ne vous pleure. C'est normal, il a atteint cet âge-là, 80 ans, une merveille extraordinaire, un prodige. C'est normal qu'il laisse la place aux autres. Le soir même, quelqu'un mourait, au seul choix, c'était comme ça, quand c'était un vieux. Les jeunes ont peur toujours, c'est normal. Et puis ils ont beaucoup de leurs novices encore nombreux, tandis que les vieux. Je crois que c'est très important de se préparer à la prise d'habit, se préparer à la profession simple, comme un don absolu, on a tout remis. Alors, il faut être prudent, c'est-à-dire qu'on dit au père maître, on l'a lu au réfectoire hein, ce soir, vous savez, cette petite sœur extraordinaire qui aimait tellement sœur Thérèse. Hein. J'ai prêché à Lisieux le jour, pendant la guerre, la dernière guerre. Je prêchais le carême à Lisieux, parce que c'était encore les vieilles traditions, prêcher le carême à ce moment-là. Je prêchais le carême à la cathédrale de Lisieux, c'est assez agréable, hein. Ça, j'avoue que j'étais très content de le faire. C'était pendant la guerre, et la petite sœur, Marie de la Trinité, venait de mourir. Alors j'ai vu son directeur de conscience, qui m'a parlé beaucoup, beaucoup d'elle. Et c'était vraiment la petite novice préférée, la petite Thérèse. La petite Thérèse avait écrit sur un petit papier, mais elle avait mis tout de suite, vous êtes ma petite novice préférée, mais je ne le montrerai à personne. Et elle avait vécu un dialogue avec Thérèse d'une façon très étonnante. Quand elle a vu que Thérèse mourait, elle s'est mise à pleurer. Thérèse a dit, ne pleurez pas. Mais vous resterez longtemps, vous, sur la terre. pour que du ciel je puisse envoyer beaucoup une pluie de roses. Et elle a attrapé un cancer au visage. Elle a souffert énormément, mais elle n'a jamais, c'est jamais plainte. Parce qu'elle est sous contrat avec la petite Thérèse. Alors ce brave prêtre disait, on verra si les carmes vont la canoniser, celle-là. Parce qu'elle est canonisable. À l'ombre de la petite Thérèse, elle est canonisable. Mais c'est difficile. Hein. Vous voyez très bien la réflexion de ce bon prêtre qui l'avait connu, cette petite qu'il avait profondément aimée et qui devait être quelqu'un d'assez extraordinaire. Tellement était lié à Sainte Thérèse. Il a raconté ce petit détail très simple. Vous savez, quand les carmélites meurent, on les met tout près de la grille. Tout le monde vient. Parce qu'une carmélite, si elle meurt, c'est une sainte, hein, forcément. Ça peut pas être autrement. Le prochain, la commune de Saint-Jean qui mourra, on le mettra dans le cœur et tout le monde viendra toucher des reliques, n'est-ce pas? Ça peut être quoi, qu'une sainte, une carmélite. Alors elle était là, comme une carmélite, juste derrière la grille, avec le chapelet. Alors on faisait toucher des chapelets à Thérèse. Et il y avait toujours une religieuse qui était là, à travers la grille. Elle prenait le chapelet de la personne, faisait toucher. Alors, chaque fois qu'elle regardait le visage de Thérèse, elle avait envie de pleurer. Alors, à un moment donné, elle n'a plus regardé. Elle faisait le geste machinal sans regarder. Puis tout d'un coup, le chapelet, hein, irrésistible. Alors, elle a regardé, le chapelet s'est pris dans les doigts. Et alors, à ce moment-là, elle a eu ce regard sur le visage de Thérèse cadavérique qui s'est comme éclairé pour elle. C'est peut-être que purement subjectif, mais c'est pas important, c'est la grâce de Dieu. Et là, elle a compris la parole de Thérèse. Je te défends de pleurer à ma mort, sois dans la joie. Et à partir de ce moment-là, elle ne pouvait plus pleurer. Elle a compris qu'il fallait vivre de la joie à Thérèse. Il y a des tas de petits détails comme ça qui m'a raconté des quantités. C'est beau, du reste, ça fait comprendre Thérèse à travers une petite novice. Hein, ça permet de se comprendre à travers ses novices. Vous voyez, hein, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et alors, la petite Thérèse, on disait, on lui a confié une charge de maîtresse de novice toute jeune. Alors, elle n'était pas maîtresse, elle n'avait pas le titre, mais elle avait la fonction. Alors, après une des premières conférences qu'elle a faites, Marie de la Trinité s'est mise à genoux devant elle en disant, « Oh, Sainte Thérèse, faites pas ça, hein. Oh, Sainte Thérèse. » Alors, Sainte Thérèse a eu ce geste extraordinaire et merveilleux. À la place de dire, nous aurions tous dit, mais taisez-vous, pas du tout. Elle l'a relevé en chantant son Magnificat, en disant, glorifions Dieu. Tout ça très beau. C'est tellement vrai de reconnaître l'œuvre de Dieu en elle. Il faut la prier beaucoup, la petite Marie de la Trinité, parce qu'elle a eu ce lien si fort, si profond. C'est un peu les catacombes, vous voyez, de Sœur Thérèse. C'est un peu l'ensevelissement de Sœur Thérèse, qui a vécu à côté d'elle, dans l'ombre, personne n'en parlait, on ne faisait aucune attention à elle, mais il y avait ce lien d'amour très très fort et très grand. C'est pour ça que c'est intéressant, il faut écouter avec beaucoup d'attention son témoignage, parce qu'elle avait pigé, elle avait saisi ce que c'était Sœur Thérèse. Alors préparons-nous avec une grande ferveur à la prise d'habit. C'est notre prise d'habit pour tous. Et ça doit être notre prise d'habit pour tous. Parce que c'est la prise d'habit de nos frères et c'est notre prise d'habit. Il y a une grâce de renouveau chaque fois qu'on assiste à des prises d'habit. La profession et puis la profession perpétuelle de nos aînés. Pour entrer très très à fond dans cette grâce de renouveau de la communauté. Je crois que c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'elle vieillit, la communauté est encore jeune, c'est bien évident. Mais on a toujours à se rajeunir. Et le démon est là pour nous arrêter dans notre élan. Pour nous arrêter dans notre élan. On connaît ça. Vous savez, c'est si vite qu'on dit des choses comme ça. On est blasé. C'est terrible d'être blasé. C'est juste l'inverse de la sainteté. On est blasé. On dit, oh, on se sent, disons, c'est la vie religieuse. Et oui, la vie religieuse, c'est un tremplin vis-à-vis de la sainteté. Pas plus que ça. Il faut bien le toucher. Parce qu'un tremplin, c'est là-dessus qu'on prend son élan. Hein. Alors, faut bien le toucher. On ne le regarde pas. On regarde la sainteté. On regarde la contemplation. On regarde l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Jésus pour nous. Mais on y adhère avec force. Parce qu'on doit passer par la porte étroite. C'est Jésus qui le veut. C'est Jésus qui veut que nous passions par la porte étroite. Et la porte étroite nous permet d'aller plus vite. Alors je crois que c'est important pour nous de profiter de ce mystère de la Pentecôte pour nous renouveler très très fort dans notre don total. À travers Marie et par elle. Un don de toute notre vie. C'est pour ça que je vous disais, le don de notre vie fait que, à ce moment-là, si Dieu veut nous prendre, hein, le jour de la Pentecôte, on sera très heureux, je dirais au Seigneur, un petit compagnon avec moi, je veux bien, mais un petit compagnon avec moi, qu'on parte à deux au moins, pour se retrouver moins de l'autre côté, et que la communauté Saint-Jean commence à s'implanter du côté du ciel. À ce moment-là, ça fera quand même quelque chose, oui, parce que on regarde davantage le ciel si on sait qu'il y a déjà des représentants de la communauté dans le ciel, et qu'il y en a là qui nous devancent et qui nous attendent. Alors, et on verra l'ordre voulu par Dieu, qui ne sera peut-être pas le même que l'ordre de la terre. Il y aura un ordre voulu par Dieu. Nous renouveler dans le cœur de Marie, je vous ai déjà dit, je le redis parce que je crois qu'il faut tout le temps revenir sur cette vision que Marthe, vous savez, je suis de plus en plus impressionné combien nous devons supplier Marthe d'être là avec nous. Tous ceux qui l'ont connue comprennent, et ceux qui ne l'ont pas connue, qu'ils comprennent, de l'intérieur, par l'Esprit Saint. En Pologne, on demandait pourquoi la communauté Saint-Jean. Je ne veux pas exagérer parce qu'il y a des témoins. Alors, pourquoi la communauté Saint-Jean? Vous savez, il a eu un succès monstre. Pas étonnant, c'était, on voyait tout de suite que la communauté Saint-Jean s'ouvrait au monde entier. Pourquoi la communauté Saint-Jean? C'était la question constante, surtout quand il s'agissait un peu des étudiants et des étudiantes. Et en définitive, on venait à dire quoi? Le Saint-Esprit a parlé par Marc. Vous savez, moi, je ne me suis pas fait le calcul en disant, tiens, il y a là, il manque là quelque chose. Hein, oui. Dans la cathédrale immense de l'église, il y a un petit chapiteau qui manque là. Hein. Alors, on va prendre la place là-dessus. Alors là, on va pouvoir se... Non. C'est quand Marthe m'a dit qu'il faut que le Saint-Esprit demande de le faire, on le fait. C'est tout. Et c'est très important pour nous, parce que c'est beaucoup plus fort que tout le reste. Le reste, ce sont des visions idéologiques, hein. Ce sont des conceptions théologiques. On ne bâtit pas une communauté sur une conclusion théologique. Non, absolument pas. On bâtit une communauté sur une volonté de Dieu. C'est tout. Ah, quand Marthe pouvait dire et disait « Mon Père, vous devez le faire, c'est la volonté de Dieu », alors à ce moment-là, moi je dis c'est arrivé quelquefois. C'était comme le Père de Haut. Marthe et le Père de Haut. Perdeau n'était plus vivant, alors il y avait Marthe. Autrement, j'aurais demandé au Perdeau, c'est bien évident. Mais c'est ça qu'on doit se dire, vous voyez. Alors ne cherchons pas trop le pourquoi, il relève de la volonté de Dieu. On n'est pas indispensable, vous savez. Heureusement qu'on n'est pas indispensable. Pauvre Saint-Esprit, c'est indispensable. S'ils allaient agir qu'à travers nous, ce serait pas fameux. On n'est pas indispensable du tout. Et l'Église se porterait très bien sans nous. C'est sûr. Mais puisqu'il y a une volonté de Dieu et une volonté de l'Esprit Saint, qu'il faut s'accrocher, parce que c'est important de savoir qu'il y a eu cette volonté et que c'est vraiment dans la petite chambre de Marthe, quand Marthe dit ça, marchez. Vous devez le faire. Alors à ce moment-là, très bien. C'est important que la communauté entre dans cette grande vision profonde de Marthe. Ce renouveau de la vie religieuse. Alors vous voyez, on peut le comprendre de deux manières différentes. On va dire renouveau de la vie religieuse. Ben oui, donc il faut un au-delà de la vie religieuse, donc institut séculier. Ça peut se comprendre comme ça. Certains le comprennent comme ça. Moi, je ne comprends pas comme ça. Je comprends un enracinement plus profond. Vous savez, ce qu'a dit Froissart à propos de la vie religieuse, il n'en rate jamais eu. Pour les Pays-Bas, il a bien épinglé les gens. Elle dit, c'est extraordinaire, partout où le pape passe, il y a toujours une religieuse qui veut faire la catéchèse au pape. Alors, il y a toujours une religieuse. C'est tout à fait ça. Alors... Alors, on voit très bien ce que ça veut dire. Hein. Alors, on peut dire, voilà, quand je regarde la vie religieuse comme ça, c'est pas très beau, hein. C'est vrai, c'est pas très reluisant, parce que ça prouve que la vie religieuse vous donne une petite fierté, un petit orgueil. Et alors, c'est un petit peu une espèce de fierté pharisaïque, ça ne va pas du tout. Et c'est pas cela qui entre dans le royaume de Dieu. Marc le disait, pour une petitesse plus grande. Il fallait que la vie religieuse entre dans une petitesse plus grande, parce que la petite Thérèse de l'enfant Jésus était comme un grand phare, comme une grande lumière prophétique pour toute l'Église, d'un renouveau de la vie religieuse. Et ça, je crois. D'un renouveau de la vie religieuse, de la vie contemplative. Et d'un renouveau pour nous. Marthe continuait, la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Marthe n'a jamais dit qu'elle faisait quelque chose d'original. Jamais. Elle n'a jamais dit qu'elle faisait quelque chose d'original, elle voulait faire au contraire quelque chose qui soit le plus possible enraciné dans l'Église et qui soit conforme au bon plaisir de Dieu, au bon plaisir du cœur de Marie. Pour Marthe, c'était net, le renouveau de la vie religieuse, c'était entrer dans la Sainte Famille. Je vous l'ai déjà dit. Entrer dans la Sainte Famille, comprendre comment Marie s'était totalement consacrée à Dieu et que nous devions être avec elle totalement consacrée à Dieu, entièrement consacrée à Dieu. C'est tellement important. Nous donnons en premier lieu, et nous devons donner en premier lieu ce témoignage de cette consécration totale à Dieu, consécration dans la foi, l'espérance et l'amour. Consécration dans l'adoration, être des personnes humaines qui, dans un monde qui se laïcise, hein, qui se laïcise terriblement, dans un monde qui n'a plus beaucoup de référence à ce que représentent les exigences de l'Esprit Saint. Un monde qui se laïcise de multiples manières. Vous savez, les laïcisations de notre monde d'aujourd'hui, ce serait très intéressant de les étudier une fois. de voir partout on voit la laïcisation, c'est-à-dire au fond l'aspect religieux, l'aspect consécration à Dieu, disons consécration à Dieu, parce que je crois que nous aimons tous mieux cette manière d'exprimer ce mystère, tend à disparaître. Vous voyez, on fait passer devant la psychologie. Les grands maîtres, c'est la psychologie. C'est très net. La sociologie. On a plus de confiance dans un psychologue, dans un sociologue, que dans un prêtre. Mais c'est une laïcisation terrible, ça. Et ça se voit, ça se voit constamment. Constamment, ça se voit. On n'a plus de confiance. C'est un peu terrible, hein, parce que ça prouve qu'au fond de notre cœur, nous manquons de foi. C'est un manque de foi, ça. Qu'on mette la psychologie à sa place, il le faut. Elle est très importante, elle est très utile, mais ce n'est pas elle qui nous fait comprendre ce qu'est notre vie de consacré. La psychologie ne peut rien dire sur la consécration, au sens profond. C'est un mystère de Dieu. Et nous devons nous conformer notre vie à cette consécration de la Très Sainte Vierge. Et toute notre vie doit être conforme à cette consécration de la Très Sainte Vierge. Ce n'est pas les conclusions psychologiques qui règlent et déterminent notre vie. Non. Si juste qu'elle soit, d'abord, une conclusion psychologique ne peut jamais être une conclusion prudentielle. Jamais. La conclusion prudentielle va toujours plus loin. Et quand la conclusion prudentielle doit être sous le souffle du don de conseil, puisque c'est le propre de la paternité de vivre en dépendance de l'Esprit-Saint, alors sous la mouvance du don de conseil, un conseil divin, alors on peut rejoindre la volonté du Père, la volonté de Jésus. C'est une laïcisation, je prends celle-là parce qu'elle est particulièrement nette, elle est flagrante aujourd'hui. Moi ça me frappe beaucoup, ça me frappe énormément ça. Et on la sent partout, elle est présente partout, celle-là, au-delà des distinctions, vous voyez, j'allais dire politiques. On la retrouve aussi bien en Pologne qu'ici. Et ceux qui sont un tout petit peu prévoyants, oui, clairvoyants en Pologne le sentent. Ça m'a été dit plusieurs fois. Est-ce qu'en Europe, la psychologie a autant d'influence qu'ici ? J'aurais dit oui. Et on sent que c'est une manière de laïciser les choses, vous voyez, de ne plus avoir un regard divin. Un regard divin qui fait que le mystère de la paternité divine, c'est vrai, c'est un mystère, c'est le mystère du Christ au milieu de nous. Ça, c'est la paternité divine. Que nous ayons des conseillers psychologues, qu'il y ait des amis psychologues, très bien, ce sont des conseillers. C'est pas eux qui déterminent. C'est impossible. C'est impossible. La vocation est à un autre plan. Est un plan divin. C'est le plan de la lumière de Dieu sur nous. Et la psychologie est au service de notre vocation. Mais elle ne peut pas déterminer. Elle n'est pas une sagesse. Elle est la sagesse mystique qui en définitive détermine tout. Parce que c'est la lumière de Dieu. Aujourd'hui, on a une peine énorme à comprendre ce que représente la consécration religieuse et l'obéissance. Je me souviens, avec mes psychanalystes freudiens, ça revenait tout le temps. La chose impossible dans la vie religieuse, c'est l'obéissance. Et ça, c'est impossible, on ne peut pas accepter ça. Alors je leur disais, mais quoi ? Vous m'acceptez, vous m'aimez bien, on peut dialoguer ensemble, vous voyez bien que la vie religieuse ne fait pas des imbéciles. Alors évidemment, à ce moment-là, elle dit, ah, mais c'est pas étonnant, c'est autre chose, c'est vous. Oh, pas du tout. Je suis entré à fond dans la vie religieuse et je ne rejette rien de la vie religieuse. Il y a des cas. Alors soyons tous des cas pour donner témoignage que la vie religieuse doit former des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Parce que c'est ça que la vie religieuse forme, c'est des enfants de Dieu. Et des enfants bien-aimés du Père. Être consacré, c'est avoir comme référence première la paternité de Dieu. Et tous ceux qui sont pour nous les représentants de cette paternité. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop vite s'émanciper de la paternité. Il faut au contraire demeurer le plus possible dans cette paternité. C'est-à-dire obéir. Puisque être enfant bien-aimé, c'est obéir et c'est entrer dans ce souffle de l'obéissance, dans cette exigence de l'obéissance, du don de conseil. Cette exigence de l'obéissance, du don de conseil, c'est tellement important pour nous de ne pas nous laisser entamer par l'attitude du monde, appelons ça comme on veut, qui n'accepte plus la vie religieuse et la consécration totale à Dieu. D'un être qui veut se donner totalement à Dieu. On ne l'accepte plus. Au nom de la prudence, au nom de l'épanouissement, au nom de un tas de choses, hein, vous savez bien tout ça, le démon est fertile dans ce genre d'attaque. La consécration à Dieu repose et se fonde sur la jalousie d'amour de Dieu sur nous. C'est parce que Jésus est le Fils bien-aimé du Père que nous sommes totalement consacrés au Père pour être des fils bien-aimés. Et c'est parce que nous avons envie d'être des fils bien-aimés. Nous voulons être plus que des serviteurs, nous voulons être des fils bien-aimés. C'est pas suffisant d'être des serviteurs quand on a un Père qui nous aime tellement. Ce n'est pas suffisant d'être des serviteurs quand Jésus, pour nous, est le Fils bien-aimé. Alors comprendre que cette consécration, elle s'enracine dans cette paternité. Et que si elle ne s'enracinait plus dans cette paternité, elle ne serait plus ce qu'elle doit être. Elle ne serait plus ce qu'elle doit être. Et pour que cette paternité soit plénière, nous avons besoin de pères visibles en qui nous avons totale confiance, en qui nous pouvons nous reposer, à qui nous demandons conseil, et quand ils nous le demandent, nous obéissons. Cette consécration religieuse, cette consécration à Dieu se réalise dans cette paternité pour que nous soyons des enfants bien-aimés, pour que tout soit pris dans cette paternité divine à travers Jésus et en Jésus. Jésus est notre Père qui nous conduit au Père éternel. Mais nous devons comprendre ce lien de paternité qui est vital. Consécration de tout notre être dans l'obéissance, en sachant que la volonté du Père sur nous est plus forte que tout. Et là, vous voyez, dans l'ordre pratique, il faut progressivement devenir des êtres consacrés. On l'est bien par le baptême, on l'est bien par la confirmation, on l'est bien chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, on l'est bien par la prise d'habit, par la profession. Tout ça sont des actes. Il faut que ça devienne une vie. Et que ce soit, j'allais dire, le réflexe premier de notre être. Est-ce que cette décision que je prends est-elle conforme au bon plaisir du Père sur moi? Et quand je me pose cette question avec force, je suis obligé d'aller demander conseil à ceux que le Père a mis sur ma route pour m'aider à découvrir sa volonté. Si nous ne demandons pas ça, mais Dieu nous laissera. Alors nos guides, ce ne seront plus les envoyés de Dieu. Ce sont des êtres peut-être très intelligents, mais ce n'est pas ça qui compte. Nous faisons œuvre d'éternité en étant reliés à la sagesse divine, à la sagesse qui vient de l'Esprit Saint et qui vient du Père. Je crois qu'il faut que nous demandions cela à la Vierge Marie, d'avoir un sens intérieur de plus en plus profond de cette consécration totale de tout notre être. C'est notre privilège, vous voyez, de pouvoir se consacrer radicalement, pas seulement tel ou tel aspect de notre vie, mais toute notre vie. Quoi que nous fassions, nous devons vivre en consacré de Dieu à la suite de l'agneau. Et vivre à la suite de l'agneau dans ce lien si fort, si intime, si profond, qui fait que rien ne peut nous séparer de Jésus et de Marie. Consécration dans notre communauté Saint-Jean. Il faut que nous l'aimions, vous voyez. Il faut que nous l'aimions, c'est vrai, c'est la partie, je crois, des volontés de Dieu sur nous, puisque nous sommes dedans, au moins ceux qui sont dedans. Et les autres, ils sont dans le rayonnement, alors ils doivent l'aimer aussi. Le Seigneur permet qu'il y ait comme des liens et qu'ils doivent être comme ça, puisque dans le sacerdoce, il doit y avoir une très grande union entre la communauté Saint-Jean et les prêtres que la Providence a mis proche de nous. Tous, et spécialement ceux-là. Nous devons aimer la communauté, pas seulement la critiquer, vous voyez, mais aimer. C'est très important. Ça aussi, ça fait partie de la consécration. On est consacré, on est porté par la communauté. C'est bien évident, si la communauté n'existait pas, certains d'entre vous, où est-ce qu'ils seraient ? Sur le bord de la route à gémir, ou quelquefois même un peu plus dans le fossé, n'est-ce pas ? C'est vrai, ça peut très bien se faire, c'est bien évident. C'est bien, vous auriez pu taper à d'autres portes, c'est évident, mais peut-être qu'on ne vous aurait pas accepté, vous n'aviez pas le barème voulu, n'est-ce pas ? Ça peut exister. On disait de notre temps, vous savez, que pour entrer dans certaines congrégations bien connues, ou dans certains ordres bien connus, mais il fallait avoir telle qualité. Ça se disait, et on le savait. La communauté Saint-Jean veut avoir la miséricorde du cœur de Marie. C'est Marie qui nous donne cette miséricorde pour les plus pauvres. Pas seulement les pauvres de l'étranger, mais les pauvres de l'intérieur. C'est relativement facile d'aimer les pauvres qui sont à côté. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est d'aimer les pauvres qui sont à l'intérieur. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut vivre avec. Et les pauvres, oui, on sait très bien, c'est pas toujours commode. Il ne s'agit pas de dire on va diminuer les exigences de la communauté pour que tout le monde soit à l'oraison du matin. Alors on la mettrait à 8h30 pour que tout le monde y soit. Non, on maintient l'heure. Et on dit qu'il faut de plus en plus que tout s'y tende. C'est vrai, il faut que de plus en plus tout s'y tende. Parce que c'est pas une chose impossible. Si on se levait à 4h du matin ou à 3h du matin, je comprendrais. Hein. Je comprendrais ça. Que c'est pas si commode que ça. Mais à 6h, c'est quand même une heure catholique, hein. c'est évident. C'est quand même respectable ça. Alors, faisons un effort. Et on doit tous faire un effort, tout le temps. Même si, pour telle ou telle raison, on s'est couché tard. C'est-à-dire, on rattrapera le lendemain en se couchant plus tôt. Plutôt que de dire, ah, je vais rattraper tout de suite le matin, moi. Non, non. Il faut essayer le mieux possible de se lever. Je vous le dis parce qu'il faut tout le temps demander au Saint-Esprit et à la Vierge Marie. C'est dans la lumière de Marie, hein. Nous nous consacrons avec elle, en elle. Et c'est dans sa lumière que nous devons essayer de comprendre tous les efforts que nous devons faire et d'aimer la communauté dans laquelle on est. Avec la prise d'habit, on appartient plus officiellement. Il faut l'aimer, alors, cette communauté. Et ça aide à vivre dedans, vous savez, de l'aimer. Plutôt, encore une fois, de voir tout de suite les choses qui ne vont pas. C'est facile à voir les choses qui ne vont pas. Mais alors, ce n'est pas la peine de les regarder trop. Ce n'est pas un objet de contemplation. Non, il ne faut pas trop regarder. Il faut vite passer et dire, je répare. Sans le dire, hein. Mais à la Sainte Vierge, j'avais le droit de le dire. Je vois ça, je vais réparer, je vais faire grande attention. Au moins, il y en aura deux qui seront fidèles. Il faut cinq pour que le Seigneur ait un regard de miséricorde sur nous. Il en faut cinq qui veulent être fidèles à travers tout. C'est suffisant. Pour Dieu. Pour les hommes, il en faut un peu plus. Mais pour Dieu. Alors il faut faire cet effort d'entrer à fond et d'aimer notre communauté. Je crois que c'est important. Ce sera plus légère si on l'aime. Et si on est plus intégré dedans, et qu'on considère qu'on est davantage intégré dedans. Vous savez, ordinairement, ceux qui critiquent le plus, c'est ceux qui s'engagent le moins. Parce que ceux qui sont très engagés n'ont pas le temps de critiquer. Ils sont très engagés. Ils font ce qu'ils peuvent. Ils s'y donnent le mieux possible. Ils savent très bien que c'est pas parfait. Heureusement, c'était parfait. Vous ne pourriez jamais entrer dans le ciel. Ça n'irait pas du tout. Tandis que là, au moins, vous pouvez aspirer au ciel parce que vous voyez bien que y a des tas de choses qui sont imparfaites. Ça n'a pas d'importance. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde les intentions de notre cœur. Aimer notre communauté, c'est-à-dire aimer nos frères, hein, c'est les aimer. Aimer ceux que Dieu a envoyés. Dans notre consécration à Marie, nous le disons. Il faut que petit à petit nous les choisissions comme Jésus les a choisis. Et je crois que ça, c'est très joannique. Parce que moi, je croyais que c'était clair comme le jour, et j'ai entendu quelquefois des gens qui disaient, mais je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. C'est pourtant clair comme le jour. Quand on a lu l'épître de Saint Jean, c'est d'une clarté absolue. Ce n'est pas nous qui nous sommes choisis pour entrer. Sûrement pas, c'est Dieu qui nous a choisis. Et c'est Dieu qui nous a mis à côté tel qui prendra l'habit à côté de nous. Drôle d'histoire. Juste celui-là. Et puis on fera profession à côté de lui. Dieu met comme ça. Il unit comme ça. Comme il veut. Et alors nous nous choisissons. Et nous choisissons comme Jésus nous a choisis. Et nous nous aimons les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est tellement important. Voyez la ferveur d'une communauté. Hein, c'est la charité fraternelle. C'est la première chose qu'on doit faire. Quand on sent que le démon est particulièrement farouche, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, resserrer les liens de charité fraternelle. S'aimer plus. Parce que le démon cherche là où il peut passer. Et je me souviens d'un père dominicain, professeur à Jérusalem, qui était parti, qui avait quitté. Et il a dit en partant, si mes frères m'avaient aimé plus, sans doute, je serais resté fidèle. Et c'est très vrai, ça. Surtout chez des intellectuels, hein. C'est pas commode. Il faut s'aimer encore plus à la mesure où notre intelligence se développe. Et c'est la seule façon d'empêcher le démon de pénétrer, de mettre la zizanie. C'est, il suffit d'un seul, vous savez, pour faire des ravages terribles. Un seul. Il faut qu'on soit un comme nous. C'est Jésus qui dit ça. Comme Père, nous sommes un. C'est cette unité-là vers laquelle nous devons tendre. Et cela aussi, c'est très johannique. Parce que c'est la volonté de Dieu. Que l'unité que nous devons avoir doit être semblable à celle de la très sainte Trinité. Il faut que nous comprenions que Dieu réclame de nous non pas d'être des intellectuels fatigués. Dieu réclame de nous d'être ceux qui comprennent que leur intelligence doit être totalement offerte en holocauste d'amour. C'est pour ça que Dieu réclame de nous de ne pas mépriser l'intelligence, de l'aimer. De savoir que Dieu nous a tous donné une certaine sorte d'intelligence que nous devons offrir à Dieu. C'est ça la recherche de la vérité. Hein. C'est offrir notre intelligence à Dieu pour qu'elle soit entièrement au service de la vérité. Mais ça fait partie essentielle de notre consécration. Consacre-les dans la vérité. Et nous devons demander cela. Je crois que ça fait partie très très fortement des exigences actuelles, vous voyez. Spécialement aujourd'hui, quand on voit un peu combien le démon secoue, agite des gens qui ont une très bonne volonté, mais qui se laisse prendre par des choses secondaires qui ne sont pas la vérité. Il faut que nous demandions cela à la Pentecôte, hein, les uns pour les autres. Qu'il y ait de plus en plus cet amour de la vérité. Ce désir de rester liés les uns aux autres dans cet amour de la vérité. L'intelligence peut être un moyen merveilleux d'être de plus en plus unis, et l'intelligence peut être un moyen terrible de division. Alors il faut là encore demander au Saint-Esprit de nous donner cette grâce. Nous l'avons. Et nous savons que ce n'est pas encore suffisant. Et que de temps en temps, on sent bien qu'il y a des poids lourds qui ne veulent pas se laisser emporter par l'Esprit Saint. Alors il faut que nous demandions cette grâce d'une docilité à l'Esprit Saint. Mais là aussi, je crois que c'est très important de comprendre que c'est une volonté expresse de l'Église. C'est quand même très important de vouloir être très fidèle au Saint-Père. Nous l'avons dit au Saint-Père. À un moment donné, on lui avait dit qu'on pourrait ajouter un vœu de fidélité au pape. Alors, j'ai dit qu'il valait mieux pas, parce que ça pourrait marcher sur les pieds d'autres. Il valait mieux pas. Mais je l'ai dit au Saint-Père. Et je l'ai dit, très Saint-Père, croyez bien que si la communauté ne fait pas un vœu particulier, elle vous est attachée filialement. Et quand le pape souffre, nous souffrons. Elle est attachée filialement, très filialement. Et je l'ai dit, plus que si nous faisions un vœu. Et nous vous le promettons. Alors je crois que c'est bon aussi de se rappeler ça, qu'il y a pour nous comme une exigence de grande fidélité à ce que le Saint-Père nous demande. À ce que les papes ont demandé, fidélité à saint Thomas. Entrer très à fond. Saint Thomas n'exclut pas les autres, mais quand il y a un choix à faire, saint Thomas passe devant. Toujours. Jusqu'au bout, saint Thomas passe devant. Et on ne se fatiguera jamais de regarder saint Thomas. Parce qu'il nous aide à mettre notre intelligence davantage au service de la foi et de la parole de Dieu. Il s'agit de bien saisir cela, cette exigence d'une intelligence qui doit être brûlée par amour, qui doit être tout entière transformée par l'amour. Une intelligence qui est toute brûlée par l'amour, toute transformée par l'amour, cette intelligence ne critique plus en premier lieu. Cette intelligence cherche la contemplation. Elle cherche la vérité. Et si elle est obligée de critiquer, elle le fait au service toujours de la vérité. Et on ne critique plus les personnes. On critique telle ou telle chose qui peut nous sembler trop osée ou pas tout à fait ce qu'il faut. On ne critique pas les personnes, on les aime. Je crois que c'est ce que nous devons demander, voyez, les uns pour les autres. Je vais demander très fort pour toute la communauté, vous savez, à ce petit pèlerinage de Pologne, chez Stokowa, puisqu'on a pu dire la messe auprès de l'icône, et que la communauté était présente. Comme on est arrivé une heure avant la messe, on a pu quand même avoir une petite oraison auprès de la Très Sainte Vierge, tout à fait dans l'intimité. Et vous étiez tous là, présents, en pensant à la Pentecôte. C'est Marie qui doit nous donner cette soif d'unité, non pas d'uniformité, mais d'unité dans la vérité. Dans l'amour, dans la vérité en Jésus, dans l'amour, cette unité profonde dans le Christ, dans cette recherche de la vérité, dans cette recherche de nous aimer les uns les autres de plus en plus, pour donner un témoignage de la présence de Jésus. Jésus nous le demande, ça. Ça, j'en suis sûr, si la communauté existe, c'est pour cela. Puisque c'est vraiment ce qui nous est donné dans Saint Jean. Que nous devons chercher indéfiniment. Disons pas que nous comprenons Saint Jean. Non, non. Disons que nous avons à découvrir de plus en plus tout ce qu'il nous transmet. Et nous devons le recevoir avec amour pour vivre de cette lumière. Il faut que nous soyons liés à cette recherche d'une vérité toujours plus profonde et plus vraie.